Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, je suis Yves Mathieu, co-directeur de l'agence Mission Publique. On a accompagné le processus avec mon collègue Erwan en tiers veilleur. Et j'ai donc la tâche maintenant de rentrer avec vous dans la matière de l'incarner, non pas moi qui viens l'incarner, mais les 6 intervenants qui vont me rejoindre. Donc j'invite Lou Bernard, Gwendoline Lair, Guillaume Pellerin, Peter Sinclair, Françoise Lemaire et Virginie Serna à bien vouloir rejoindre la table de discussion. Nous avons une heure pour rentrer dans la matière avec vous. Alors comme Frédéric l'a souligné, il faut de l'équipement quand on fait de la participation. Donc j'ai pris avec moi une technologie d'avant-garde qui est un sablier. Hein, j'ai 2 sabliers, en fait un sablier de 10 minutes, très précieux pour les temps de parole, et un sablier de 2 minutes pour les présentations. Le principe est quand le sablier est au bout, le temps de parole est écoulé et vous commencez à prendre la parole sur les autres. Donc nous allons respecter cette heure que nous avons devant nous. Il me reste encore 1 minute et demie pour mon introduction et je vais donc pour voir qui est arrivé. Je vous invite à regarder, vous êtes plus d'une centaine ce matin, c'est vraiment un beau succès pour cette journée du 11 juillet. On est vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, regardez la salle. Donc, qui est membre du réseau Participarc, levez la main. Parce qu'on a les étiquettes, mais comme ça, vous voyez où les gens sont posés dans la salle. Normalement, vous devez lever la main aussi. Hein. Voilà. Qui parmi vous a déjà fait une recherche participative? Donc, une bonne vingtaine de personnes. Qui doute de la participation dans la science et la culture? On a le droit de douter, hein. Voilà, doute, mais c'est pour reposer la question à la fin de la journée. J'espère que les doutes s'effaceront ou s'ils sont renforcés, qu'on pourra les entendre. Qui a déjà envoyé un message de test sur comment s'appelle la plateforme?
Interactive Wall, on a beaucoup de messages.
Interactive Wall, ça commence à venir. Bon, donc ça tourne. Vous n'hésitez. Donc qui en a envoyé un? Donc utilisez-la parce qu'on va donner la parole plusieurs fois, 4 fois pendant l'heure qui vient à Hugo et Dalil pour les messages. Et c'est une bonne manière d'être en interaction. Qui parmi vous est chercheur? Donc, petite moitié ou un bon tiers, je sais pas, un bon tiers. Allez, on n'a pas toujours la même estimation, c'est le problème quand on veut objectiver un groupe. Qui est étudiant? C'est vrai qu'on a... Donc, on a petite dizaine d'étudiants, bienvenue. J'espère que ça va vous donner une bonne trajectoire dans vos études. Qui est du ministère de la Culture? Très bien. Oui, mais il y a une quinzaine de personnes avec vous. Bien, on a encore plein d'autres questions possibles, mais qui est journaliste? Là, vous levez la main. On a 2 journalistes avec nous pour faire le suivi. Et qui est membre d'une collectivité? On a parlé des collectivités. Ah, nous avons 2 personnes des collectivités, donc vous allez bénéficier de beaucoup d'attention parce que les relais que vous donnez sur les territoires de ces approches de recherche sont évidemment fondamentales. Bien, j'ai sans doute, qui est membre d'une association? On a parlé de l'importance des associations. Association recherche, association culture. Plutôt des associations culture. Bien, je vous propose de rentrer dans la matière. Et pour rentrer dans la matière, on s'est dit que la meilleure manière de le faire pour matérialiser cette diversité des pratiques, cette diversité des recherches dans le domaine de la culture, c'était de les incarner par différentes personnes qui, chacune dans son domaine, portent une recherche participative. Et donc, chaque intervenant ici va se présenter et a 2 minutes pour vous montrer une des facettes qui aujourd'hui est déjà à l'œuvre dans le domaine de la culture et dans le domaine de la recherche. Et partant de là, nous engagerons la conversation sur 4 sujets qui nous mèneront dans notre heure. Donc, on va le faire de manière systématique. Guillaume, bonjour.
Merci Yves. Donc, je suis Guillaume Pellerin. Je dirige le service le pôle web à l'IRCAM. Donc l'IRCAM, c'est l'Institut de recherche de coordination en acoustique et musique, créé par Pierre Boulez en 77, qui héberge donc une grande UMR centrée sur les sciences, les technologies de la musique et du son. Donc c'est une centaine de chercheurs et d'ingénieurs qui travaillent de pair, avec des compositeurs, des artistes. C'est l'originalité de ce laboratoire, en essayant de définir des projets, en l'occurrence participatifs, mais centrés autour des arts et des technologies musicales et sonores. Un département de production également, donc beaucoup de pièces sont produites chez nous. Et donc c'est une grande activité de l'Institut de réussir à faire des co-créations entre différentes disciplines, différentes approches artistiques. Et c'est ce qui fait un endroit assez particulier. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs pour venir voir ce qui s'y passe. Donc mon équipe, qui appartient au département donc de l'innovation et des moyens de la recherche, est centrée donc sur le développement d'applications plutôt orientées web aujourd'hui, qui permet justement de faire participer, collaborer des chercheurs, des gens, des artistes autour de sujets scientifiques ou autour de données scientifiques. J'aimerais citer trois projets parmi la foultitude existante. Un projet qui s'appelle COSIMA, COSIMA, qui est un projet mettant en jeu des différents scénarios d'usage pour créer des œuvres musicales avec le public. Donc en s'appuyant sur les technologies du web, sur les téléphones mobiles, de faire participer les gens à la création d'œuvres musicales. Voilà, je n'en dis pas plus, il y a plein de bons exemples et de belles... D'accord. Telemeta, T-E-L-E-M-E-T-A, qui est l'application qui héberge les archives du CNRS et du Musée de l'Homme. C'est un endroit où maintenant on peut lire et collecter des données à l'échelle mondiale autour donc d'archives sonores, aujourd'hui numérisées et documentées par les chercheurs. Et le dernier projet, c'est le projet STARTS, STARTS, qui est un programme européen qui met en jeu donc des artistes et des laboratoires à l'échelle européenne pour définir des résidences d'artistes, des projets particuliers mettant en œuvre les arts et les sciences.
Peter Sinclair.
Je mets un peu plus loin, comme ça je le vois. Je m'appelle Peter Sinclair. Je suis artiste et chercheur et directeur de recherche. J'ai deux casquettes. Je travaille à la fois à l'école d'art d'Aix-en-Provence et je suis intégré avec un nouveau UMR qui s'appelle PRISM, donc perception, représentation, image, son, musique, qui est soutenu par le CNRS et Aix-Marseille Université. Donc à l'école d'art d'Aix-en-Provence, nous menons, et il est aussi soutenu par le ministère de la Culture par ailleurs, depuis une quinzaine d'années, nous menons à l'école d'art d'Aix-en-Provence, sous le nom de Locus Sonus, des projets de recherche participatifs. Ils tournent essentiellement autour de l'expérimentation des technologies émergentes du réseau, du son partagé via l'Internet. Et c'est une investigation essentiellement des formes esthétique ou des potentialités artistiques qui peuvent découler de ces technologies, qui ne sont pas forcément les buts recherchés par l'industrie. Donc le projet peut-être le plus compréhensible aujourd'hui, c'est un projet de microphone ouvert où, avec un groupe de collaborateurs internationaux, nous avons mis en place des microphones qui captent simplement des paysages sonores de par le monde, qui les diffusent sur notre serveur et qui servent à nous, mais aussi à d'autres artistes, aux amateurs, à créer des projets artistiques et de composition musicale. Je crois que mon temps est écoulé.
Merci Peter. On pourra aller sur le site pour écouter ces sons du monde entier. Virginie Serna.
Oui, bonjour. Je m'appelle Virginie Serna, donc mission de l'inventaire général du patrimoine culturel. C'est un champ culturel qui n'a pas été encore cité, mais qui est très présent également dans la notion de participation et qui, je pense, commence à faire le pas, enfin depuis 2014, dans la notion de participatif. Et je tiens vraiment à ce que les deux termes soient bien présents, parce que depuis le début, en fait, 1964, création donc de l'inventaire général du patrimoine culturel, la participation, ce terme-là, était bien présent, avec l'arrivée donc de bénévoles très rapidement, avec un système hiérarchisé donc de données de façon à recenser et à collecter en fait le patrimoine culturel dans toute sa diversité, sur l'ensemble du territoire métropolitain au départ, puis outre-mer maintenant bien sûr, et avec trois mots d'ordre qui continuent à être apposés systématiquement sur toutes les couvertures des publications, donc recenser, étudier et faire connaître. La mission de l'inventaire général du patrimoine culturel est une petite mission. Nous sommes juste 5 donc, au sein de l'administration centrale, la direction générale des patrimoines. La vocation est celle de continuer, en parallèle donc, de la décentralisation, de continuer à activer en fait, l'ensemble de ce réseau, donc des chercheurs qui sont des chercheurs donc, sur le territoire, en région, dans des services qui ont connu différentes évolutions, et qui, surtout pour la partie Bretagne, on va dire, donc la région Bretagne, ont commencé depuis 2014 à mettre en place le participatif. Et donc on est passé à l'adjectif et non plus au terme. Et ce sont en fait l'ensemble de ces expériences, donc pour les régions Bretagne, mais également pour la région Nouvelle-Aquitaine, mais également pour des réflexions qui sont en cours Centre-Val de Loire, mais également Pays de la Loire. Donc, ce sont l'ensemble de ces expériences que j'aimerais pouvoir vous présenter au cours de cette session. Merci.
Oui, bonjour, Lou Bernard. Je suis archéologue, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg et au CNRS à l'UMER 70-44. Et je travaille sur les Gaulois, sur des données archéologiques très disparates, pas toujours faciles à saisir, et sur les aspects de spatialisation de ces données, donc à l'aide de systèmes d'information géographique, donc pour faire des cartes diachroniques. Et donc nous avons mis en place depuis quelques années un projet participatif, mais entre chercheurs et entre institutions, c'était déjà un sacré challenge, de convaincre les collègues de partager tout ou partie de leurs données, donc au sein de différentes institutions, mais aussi évidemment des étudiants avancés, des musées, des inventaires, et travaillant à Strasbourg, on est dans une situation au moins trinationale, un petit peu plus compliqué avec tous les lenders qui nous entourent. Donc là aussi, on a des grandes difficultés et un challenge passionnant pour partager, déjà ne serait-ce qu'entre chercheurs, la donnée archéologique. Nous sommes aussi confrontés à des difficultés d'ouverture à cause du risque de pillage des sites archéologiques, qui fait que même si on voudrait mettre tout en ligne, ce n'est pas toujours forcément possible. Et au sein de la plateforme que nous avons développée en bottom-up, comme on dit, donc un petit peu intuitivement à Strasbourg, nous travaillons aussi depuis le début avec les collègues paléo-environnementalistes pour travailler aussi sur le climat, le paysage. Et on se rend compte de la difficulté de la mise en commun de données disparates et hétérogènes dans ce cadre-là. Et donc, rapidement, volontiers, en discuter davantage.
Merci Lou. Déjà, on voit quelques risques et comment les choses doivent s'amorcer déjà entre chercheurs. Gwendoline Lair.
Bonjour, donc je suis Gwendoline Lair, je suis architecte DE et ingénieure. Je suis actuellement au doctorat à l'UMR Ambiance Architecture Urbanité. Donc c'est un laboratoire qui est sur deux sites, à la fois l'école d'architecture de Nantes et l'école d'architecture de Grenoble, entre autres. Et la question de la participation, en fait, on a justement cette distinction assez floue de qu'est-ce que de la recherche participative au sein du laboratoire, parce qu'on a des projets de recherche qui portent vraiment sur l'expérimentation de co-design et de ces compréhensions-là de méthodologie, finalement. On a également des projets où on est plutôt dans l'expérience de l'espace urbain ou de ses architectures, donc la compréhension de ces perceptions et avec l'étude des ambiances. Et on a d'autres formes aussi de travaux de recherche qui sont sur la fabrique en fait de ces espaces, et donc on est plus dans une compréhension de jeu d'acteurs qui se met en place. Voilà, donc ça c'est pour présenter un peu la diversité au sein de l'UMR de ces questions de la participation et du rapport du chercheur vis-à-vis de, finalement, de ses enquêtés. Et donc pour ma part, au sein de mon sujet de thèse, je travaille sur les méthodologies participatives en fait, qui sont intégrées à l'action publique environnementale. Donc c'est actuellement, depuis quelques années, avec l'évolution des outils numériques, des collectivités, donc c'est généralement des villes ou des métropoles, mettent en place des dispositifs participatifs en dehors de toute recherche de sciences participatives, mais qui font de la science participative, c'est-à-dire qui observent, qui mesurent la qualité de l'air, l'environnement sonore, qui font des inventaires et des cartes collaboratives d'arbres remarquables. Et donc moi j'étudie la participation dans ce type de projet.
Voilà. Merci Gwendoline. Et avec Françoise Lemaire, nous allons ouvrir les archives nationales.
Bonjour, je suis Françoise Lemaire, je suis conservatrice du patrimoine dans la spécialité archives. Je travaille donc aux archives nationales et mon rôle en fait en tant que chargée de mission pour les partenariats scientifiques, c'est d'inscrire les activités de recherche des archives nationales dans l'agenda de la recherche, puisque nous sommes effectivement membres de plusieurs consortiums, des LABEX, des écoles universitaires de recherche, et nous travaillons évidemment en partenariat avec d'autres institutions culturelles. Donc je vais vous parler d'un des défis qui se posent au monde des archives aujourd'hui, et je vous présenterai plus particulièrement un des projets participatifs conduits par les archives nationales, qui est le projet NATNUM, qui porte sur les dossiers de naturalisation. Alors ce défi auquel je fais allusion, quel est-il ? Il se trouve que dans les fonds d'archives, nous avons énormément de dossiers d'informations qui concernent directement les citoyens, qui concernent les personnes, qui renvoie à des histoires individuelles ou à des trajectoires familiales. Donc tout le monde connaît bien sûr l'état civil qui a donné lieu à de très grands projets participatifs dans le réseau des archives départementales, mais nous, aux archives nationales, nous avons 24 km linéaires de dossiers de naturalisation depuis 1803 jusqu'à 1973, et donc c'est toute l'histoire de celles et ceux qui sont devenus français par décision. Sauf que ces 24 km linéaires de dossiers, donc des centaines de milliers de dossiers qui contiennent des histoires, donc comme je le disais, personnelles, familiales, passionnantes, parfois douloureuses, ne sont pas accessibles parce qu'il n'y a pas une indexation suffisamment fine, tout simplement parce que c'est un travail colossal. D'où l'idée, effectivement, donc d'associer le public, d'associer depuis 2017 des internautes à l'indexation donc de ces centaines de milliers de documents afin de les rendre accessibles aux citoyens mais aussi aux chercheurs parce qu'effectivement on produit des métadonnées de qualité et donc on nourrit aussi tous les courants de recherche autour de l'histoire de l'immigration par exemple.
Merci, donc vous avez là une première vision d'une grande diversité de pratiques dans le domaine de la culture et la recherche participative. Donc, la manière dont on a prévu la suite, donc par 4 sessions de 10 minutes, voilà, elle vient de commencer. Nous allons lancer des échanges entre plusieurs participants ici. Donc, c'est Peter et Virginie qui vont commencer. Vous interviendrez. Donc, je donnerai la parole tout à l'heure à Dalil et Hugo et les autres intervenants de la table. Contribue également, mais il y a deux intervenants principaux, si on peut dire, par sujet. On s'est dit que, au fond, la bonne manière de commencer, c'était parler de ce que ça produit, c'est-à-dire quand on a un participant ou 1000 participants, plus un chercheur, qu'est-ce que ça produit, qui ne serait pas produit sans ce binôme participant-chercheur, et en particulier dans le domaine de la culture. Peter ?
Dans le contexte des projets que je mène, en tout cas, en fait, c'est le participant qui mène le contenu, en réalité. Donc, en fait, sans le participant, il n'y aurait rien. Enfin, disons que le projet n'existerait pas.
Et le chercheur, lui, est en position de réception du contenu produit par le participant, c'est ça ?
Il est en position de réception, mais il est aussi en position de partage de ce contenu avec le participant. C'est-à-dire que la distinction entre le chercheur et les participants n'est pas si flagrant que ça. C'est juste enfin, la manière d'exploiter les résultats n'est pas la même. Pardon ? La manière d'exploiter les résultats n'est pas la même. Et c'est une question aussi de l'initiation et de l'organisation du projet. Mais il s'agit de projet artistique quand même.
Donc l'initiation, c'est-à-dire précisément
La mise en place, l'organisation, la réflexion de l'architecture même du projet.
Ça, c'est le chercheur.
C'est le chercheur.
Et donc, au fond, si le participant n'était pas là, il n'y aurait pas de recherche dans ce cas-là.
Voilà.
Ça va
jusque-là. C'est le participant c'est des dispositifs qui sont mis en place pour accueillir des participants pleinement, qui ne pourraient pas avoir une existence. Enfin, dans le cas, par exemple, du projet de LocuStream, les microphones ouverts que je viens de décrire, il serait impossible de faire ce projet sans la participation des personnes de par le monde.
Virginie ?
Alors, à l'inventaire en particulier, on est tout à fait dans un autre mode d'approche. Les normes existent, le vocabulaire existe, les prescriptions existent, les livres et les thésaurus existent, et donc forment ensemble en fait un cadre très normatif pour recueillir l'ensemble des données sur le patrimoine culturel. Donc le chercheur, à la limite au début, il peut exister seul, en équipe, avec tout cet ensemble normatif. L'arrivée en fait du participant, qui est, je le rappelle, demandé en fait dès le départ dans les méthodes donc de l'inventaire, c'est au départ l'idée d'appuyer, de collaborer, de pouvoir s'adosser en fait sur quelqu'un qui est sur le terrain. Donc cette notion-là est très importante, c'est la notion d'in situ qui est très souvent abordée aussi dans l'inventaire, être sur le terrain, regarder. Et donc ce qui est aussi demandé avec l'arrivée des participants, c'est aussi un autre regard, d'autres mots, d'autres vocabulaires, l'arrivée des termes vernaculaires par exemple, et également donc cette idée aussi qui est vraiment intéressante et qui continue nos jours, c'est l'idée que le participant avec le chercheur, c'est pas 1 plus 1 est égal 2, c'est 1 plus 1 égale beaucoup plus. Parce que la parole, en fait, du participant et du chercheur dans un dialogue qui doit se faire, si possible, in situ, devant un paysage, un patrimoine, un bâtiment, forme en fait un dialogue qui va au-delà de la simple restitution des données. Il faut qu'il y ait une alchimie qui se fasse.
Et cette alchimie, dans les deux cas, ce que j'entends, c'est que l'alchimie repose sur un cadre. Le cadre est fondamental pour que la recherche participative puisse avoir lieu.
Enfin, pour moi, le cadre, moi j'appelle ça plutôt un dispositif, mais le dispositif, ça repose dessus, mais il est conçu avec la participation.
Tandis que à l'inventaire, il est conçu avant, surtout avant la participation. Enfin, aujourd'hui, peut-être que dans la prospective, on verra des choses différentes, mais à l'heure actuelle, pour l'instant, et c'est bien le terme de cadre qu'il va falloir employer, c'est très normé, très très normé. Mais cette normalisation, en fait, est capable aussi d'accueillir la parole des autres, de la transformer, parce qu'il faut quand même mettre des mots, des termes dans un ordre méthodique et pour avoir des données comparables. Voilà, mais on est... Alors, c'est pour ça qu'on a choisi d'être en binôme ensemble, parce qu'on n'est pas du tout pareil.
Non, en effet, c'est donc moi... Lorsque je parle de forme essentiellement artistique, il est évident que toute forme artistique implique une participation du public quelque part, si ce n'est que dans le fait de rendre quelque chose, que le fait dans l'art, le fait de rendre au public quelque chose fait partie de la validation de l'œuvre ou le processus artistique.
Donc, dans la recherche participative, quelle est la partie du participant qu'on va chercher? Est-ce qu'on va chercher son cerveau, sa rationalité? Qu'est-ce que vous activez quand vous engagez des participants dans vos travaux de recherche?
Alors, je pense qu'il y a déjà, il me semble, il y a l'œil. L'œil est vraiment demandé, c'est-à-dire que savoir voir, savoir regarder, savoir aussi donc décrire. Avec les mots qui sont les siens. Donc ça, c'est important. Il y avait aussi l'idée du ressenti de l'intuition. Ça aussi, ça me paraît extrêmement important, c'est-à-dire l'intuition que là, sur ce paysage, il y a un bien culturel qui peut-être n'a pas été bien vu, bien identifié.
Oui, donc pour nous, c'est essentiellement l'oreille. mais c'est parce qu'on travaille avec l'art sonore. Par contre, d'autres collègues dont l'UMR Prism travaille aussi avec le cinéma, avec la danse, avec différents formes artistiques. Donc on est plutôt sur des recherches création, des recherches action, où on incite effectivement à un travail intuitif, sensible de la part du public. C'est cette sensibilité qu'on va aller chercher plutôt que de quelque chose de quantitatif.
Et ça vous dirait que c'est une des particularités de la recherche participative en culture ?
En culture ou en art, peut-être, je me le permettrai.
Dalil, est-ce que nous avons des questions, des contributions ? Si vous pouvez prendre le micro.
Alors, merci beaucoup. On a déjà quelques questions qui affluent. Deux notamment, là, qu'on vient de relever. Donc, pour les deux intervenants qui viennent d'être interrogés, pouvez-vous nous dire pourquoi les gens participent à vos recherches dans chacun de vos projets, être un peu plus concret à ce niveau-là ? Et je pose tout de suite la deuxième question qui suit. Qu'est-ce que la participation apporte à la recherche en art ? Un peu plus assez général aussi.
Oui, donc en fait, ce qui motive les gens à participer à notre projet, c'est plutôt des gens qui sont vraiment intéressés par l'écoute, par l'espace sonore, par l'écologie sonore, le paysage sonore. De plus en plus, d'ailleurs, on a des interventions des écologistes, enfin des écologistes plutôt amateurs, qui sont vraiment engagés sur ces questions. Qui veulent transmettre ces paysages qui les entourent et participer à ce projet mondial. Et la deuxième partie de la question, c'était...
Qu'est-ce qu'elle apporte à la recherche en art, cette participation ?
Oui, alors ça c'est intéressant, mais c'est, en fait, je pense qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, dans tout art, il y a participation quelque part. Mais on voit aussi depuis les années 90 une accélération du nombre de projets en art participatif qui sont peut-être suite au texte de Nicolas Bourriaud, mais dans lesquels on trouve un certain... importance dans un engagement politique, un déplacement de l'idée que ce soit l'artiste auteur, et plutôt que c'est l'artiste qui est auteur d'un processus et non pas d'une sorte de contenu expressif. Voilà.
Oui, alors pour les participants qui ont été auditionnés d'ailleurs au sein également de ce séminaire, ce qui a été retenu, c'était l'idée de participer à une connaissance, de pouvoir mieux s'approprier en fait leur territoire qu'ils connaissent souvent bien, mais pour lequel en fait parfois ils veulent encore plus. Alors parmi, pour vous montrer un petit peu juste la diversité des différents inventaires participatifs qui ont été menés, par exemple en Bretagne 2014, donc sur le patrimoine du lin et du chanvre, croix et calvaire, le patrimoine des charpentes armoricaines, le patrimoine, l'inventaire participatif des fours à Gouémont, j'aime beaucoup, et puis l'inventaire du patrimoine maritime de l'archipel des Glénans. Donc vous voyez, on est quand même sur des territoires, on est aussi parfois sur des thématiques. Je crois que ce qui ressort pour les participants, c'est aussi, c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé mais que j'aime beaucoup, c'est quand même aussi le plaisir de cheminer dans un territoire, le plaisir de reconnaître et de savoir reconnaître et de savoir nommer et désigner des choses auquel on est attaché. Ça me semble très important. Et la deuxième question, pourquoi ? Non, quoi ?
Le sablier est épuisé, donc on reviendra si on a quelques minutes tout à l'heure. Merci beaucoup, Virginie et Peter. Nous allons maintenant passer avec Guillaume et Karen Faure de la Sorbonne. S'est excusé, elle ne peut pas être avec nous. Autrement, Guillaume aurait été en binôme avec Karen. Creusons un peu le côté chercheur, parce que si Guillaume, vous aviez un argument à donner à des chercheurs qui ne font pas de la participation à en faire, ce serait quoi votre argument principal ?
Pour des chercheurs, j'ai du mal à trouver un seul argument. Alors au début j'ai fait un couple, un triplé, ça s'est transformé en quadruplé, Mais le plus important pour moi, c'est l'interdisciplinarité. Je pense que la participation, on a évité de se poser la question dans le projet participatif, de savoir qui sont les publics, de vraiment faire ce qu'on appelle du profiling sur les participants. Mais finalement, si on y réfléchit bien, entre disciplines, même entre chercheurs, il y a une forme de communication, de travail en commun possible. Typiquement, si moi je participe au projet de Lou, je suis chercheur mais pas en archéologie, je serais juste participant, pourtant je peux être chercheur, ingénieur, par ailleurs. Donc quand on dit participant, c'est des disciplines tierces par rapport à son sujet d'origine.
Mais pas nécessairement des citoyens profanes.
C'est ça. C'est le mot que j'évacue. Finalement, ce ne sont pas un grand public qui est non expert en une certaine matière. En fait, les gens sont toujours experts en certaines choses. Juste, ils vont apporter leur expertise dans un autre champ d'expertise. Pour moi, c'est l'intérêt. Et autour de cette interdisciplinarité, il y a quelques mots qui me sont venus. Un peu plus techniques, parce que je produis des plateformes pour les chercheurs et les publics. Pour moi, c'est l'interopérabilité qui est au cœur. On a un vrai problème aujourd'hui de temporalité, de spatialité de ces outils numériques.
Alors, c'est-à-dire ?
On a bien vu dans les discussions que même si les scénarios de sciences participatives n'étaient pas toujours numérisés, il y a toujours la question de l'outil numérique qui intervient. Et on a un vrai sujet sur l'interopérabilité des systèmes dans un réseau qui aujourd'hui est mondialisé. C'est-à-dire que quand vous poussez des données sur Internet, par quelconque moyen, là tout de suite on a moyen de les faire propager à l'échelle internationale. Donc au-delà de la spatialité d'un événement ou d'un lieu de travail, il y a l'ultra-spatialité de ces données, et dans la temporalité qui est associée à ça, finalement une vraie question, peut-être qu'on y reviendra ensuite, quel est le bon temps pour initier des participations. Il y a toute une échelle temporelle.
Le bon moment, c'est à la fois dans la durée et le moment, c'est-à-dire le bon temps, c'est par exemple, est-ce qu'on pourrait prendre des exemples au travers de plateformes que vous accompagnez?
Oui, par exemple sur le projet Télémeta qu'on travaille avec plein de partenaires depuis plus de 12 ans maintenant, on a eu la chance nous de pouvoir s'associer à un corpus de données qui était déjà existant depuis 120 ans. Donc produit par des musicologues, notamment du Musée de l'Homme. Et donc on a eu comme projet de prendre une base de données qui est au fond d'un tiroir, enfin d'un bureau sur un vieux Mac, et de les porter sur le web. Donc là, le temps, c'est le bon temps, en fait. Et évidemment, on est toujours pressé de voir ces données réutilisées dans une forme de vitalité numérique à l'échelle internationale. Néanmoins, on s'est vite aperçu qu'aller trop vite en termes de... je dirais, de réflexion sur les modèles de données, sur la manière de penser les scénarios de participation. Quelles sont finalement les fonctions de participation dans un projet où on fait intervenir des données de la recherche? Finalement, c'était des questions très longues à résoudre et on les a résolues. C'est là où je donne le terme suivant qui est la modularité. La modularité pour nous des systèmes, ça nous permet de faire évoluer les systèmes au fur et à mesure des expériences. L'expérience qu'on a eue, c'est que finalement, penser un système de participation à l'échelle numérique, c'est toujours une question d'itération. Et donc, de faire un premier prototype, de l'user, de le faire tester, de prendre l'avis des participants et de repenser le système de manière itérative. Cette modularité, et donc le principe de modularité des systèmes, il est déterminant si on veut pouvoir évoluer dans le temps.
Lou voudrait intervenir. Et j'ai oublié de dire aux intervenants de la table que la technologie à utiliser pour prendre la parole, c'est le doigt. Donc vous me faites signe et je vous donne la parole.
Oui, merci. Ben pour rebondir sur ce que disait Guillaume et pour l'expliciter sans doute, le challenge ou la contrainte principale, c'est le passage d'une culture de livres, qui est la culture des scientifiques. On sait faire le tour de la bibliographie, donc on sait trouver les articles, les publications, les monographies. Et en revanche, sur Internet, c'est la grosse difficulté. Donc cette mise en réseau est passionnante, mais l'interopérabilité, pour l'instant, reste le petit caillou qu'on a dans la chaussure qui fonctionne très mal.
Par exemple, dans votre cas ?
Par exemple, les bases du ministère et les bases du CNRS et les bases de l'IGN ne sont pas reliées techniquement. Donc il faut faire des ponts et puis chacun des systèmes évolue dans son coin. Et donc déjà ça, en interne, c'est très compliqué. En l'ouvrant, on va rajouter un niveau de complexité et de difficulté. Et donc voilà, je rejoins tout à fait cette importance de l'interopérabilité. Qui est essentiel. Et puis il y a le problème de la temporalité. On est chercheur, on a l'habitude de choses qui se font dans un temps long, des publications qui prennent le temps, de la correction, du peer review, de 2 ans, 3 ans de décalage. Sur Internet, à l'ère du digital, ça ne fonctionne plus. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Donc ça, évidemment, c'est un problème de plateforme. Et le temps qu'une plateforme arrive à se faire connaître, finalement, par les canaux traditionnels, par des publications sur papier, elle disparaît.
Bien, dans les 100 000 grains de sable qui nous restent, je voudrais bien aborder 2 questions avec vous. C'est la question des échelles. Quand on parle participation, on a une image qui peut venir a priori, qui est de dire c'est du grand nombre. Donc là, vous soulignez l'échelle du temps. Vous êtes en train de dire que l'échelle du temps long est nécessaire dans la recherche participative, l'échelle de l'outil. Mais comment est-ce que vous voyez cette échelle du volume ? Est-ce que la participation peut se faire à petit nombre, grand nombre ? Est-ce qu'on est plutôt en train d'aller chercher des contributions superficielles ou est-ce qu'on préfère moins de gens qui vont en profondeur dans le sujet ? Comment est-ce que vous raisonnez sur les échelles quand on parle participation ? Alors, là, je vois si d'autres personnes veulent intervenir, lever le doigt. Donc, Guillaume.
Ouais. C'est une vraie bonne question, les échelles. En fait, quand on fait participer des gens à travers une certaine interface, ils vont toujours participer à un endroit. Néanmoins, c'est un endroit où vraiment ils vont vouloir écrire une annotation, modifier un champ, corriger un terme. Ça va toujours se passer à un petit endroit, une toute petite spatialité. Maintenant, pour arriver au bon endroit, il faut tracer son chemin et avoir les bons outils pour réussir à trouver ce bon endroit. Donc, dans les bases de données que nous, on travaille à la CAM et avec d'autres partenaires, évidemment, on cumule de plus en plus de données. On est vraiment dans le champ du grand nombre big data assumé. Et en fait, ça augmente sans arrêt. Donc, et aussi, plus on devient interopérable, plus en fait les champs des possibles est conséquent. Et plus il faut trouver des moyens de recherche, des moteurs de recherche, qui vont droit au but. Et pour ça, ça suppose vraiment de. Et c'est vraiment la difficulté finalement de l'enjeu pour nous, c'est de trouver. De définir les bons chemins à la place des participants, c'est connaître en fait quel chemin ils vont vouloir prendre. Donc c'est comme un traceur de GR en montagne, il va tracer en fonction du relief et de la faune et de l'environnement, mais il va aussi essayer de définir quelque chose qui est possible pour les marcheurs. Et donc nous on a si je peux utiliser cette analogie, cette nécessité de comprendre quelle est la démarche du participant, et dans sa temporalité qui est souvent très courte, parce que évidemment avec les mobiles aujourd'hui, on veut pouvoir participer avec 3 clics, parfois derrière son bureau en faisant une étude de 15 jours ou plus. Et donc c'est comprendre cette temporalité dans les différents contextes d'usage des plateformes, c'est déterminant.
Oui, je voulais réagir sur le mot échelle, peut-être un petit peu en contrepoint de ce qui vient d'être dit. Donc effectivement, dans les archives, nous avons une vocation citoyenne très affirmée qui correspond aux origines de notre administration, créée par la Révolution française, je le rappelle. Donc pour nous, effectivement, c'est un défi que de pouvoir concevoir des projets qui soient à des échelles très larges et qui soient très inclusifs, pour finalement que tout un chacun puisse s'y retrouver. Et je dirais que c'est peut-être une difficulté qu'on n'a pas encore complètement surmontée. Bon, aux Archives nationales, on a 7 projets participatifs qui peuvent intéresser énormément de gens, mais on n'a peut-être pas encore les outils, effectivement, qui nous permettent de massifier un petit peu la participation pour finalement trouver le public qui serait le public, je dirais, naturel pour les projets que nous essayons de mener.
Alors on va, merci Françoise, ouvrir la page de l'institution, puisque justement, c'est cette page-là que vous ouvrez. Une question avant de rentrer dans l'institution en elle-même. Au fond, quand on va chercher la participation chez les citoyens pour le chercheur, je reste un peu sur le côté chercheur, est-ce que ça augmente le risque de la recherche? C'est-à-dire, est-ce que la donnée créée par des participants profanes sont fiables, considérées comme fiables? Quels sont les garde-fous là autour de... Est-ce que finalement on génère une recherche de meilleure qualité ou est-ce qu'on génère une recherche qui prend plus de risques par la participation? Françoise.
Voilà, donc je vais poursuivre. Je dirais que le risque, effectivement, on est obligé de le prendre en compte, mais comme cela a déjà été souligné, on met en place des protocoles très précis parce que dans l'optique qu'effectivement les données produites soient réutilisables, aussi bien par tout un chacun que par des chercheurs, ça suppose une mise en qualité. Dans nos projets participatifs, en fait, il y a un énorme travail qui est fourni donc par les porteurs de projets, qui consiste à valider et à aligner finalement les données produites par les participants. Donc, il y a quand même un gain qui est, je dirais, celui de la production des données. On essaye que ça soit de la meilleure qualité possible, mais il y a de toute façon un travail en aval. Afin que les données soient véritablement à la qualité attendue.
Tout l'encadrement à donner. Alors Hugo et Dalil font la preuve que la participation augmente la fiabilité de la démarche, puisqu'ils me rappellent que je n'ai pas donné la parole pendant le tour précédent. Donc
oui,
qu'est-ce qu'on a comme retour, question?
Oui, on avait plein de retours et de questions autour du niveau d'accès à la participation, des compétences, et notamment vis-à-vis de la culture. En culture et dans l'art. Mais d'abord, il y avait une question précise sur le projet Télémata, pour Guillaume Bellerin. Est-ce que la plateforme permet un retour des archives sonores et permet de faire participer les populations locales?
Oui, c'est un des objectifs non avoués des chercheurs au départ, mais nous, on l'appelle retour au pays. Donc c'est des enregistrements qui parfois ont lieu il y a 70 ans dans des ethnies du monde entier. Et aujourd'hui, de manière, puisqu'elles sont numérisées et mises à disposition des publics du monde entier, il y a ce retour au pays qui s'opère, et donc parfois de la correction de l'interaction entre un chercheur et une personne connaissant la culture locale, la musique de ses ancêtres, qui va venir corriger donc des thésaurus, des ontologies, quelques données, voire annoter certaines données.
Ça fait partie de bénéfices secondaires parfois non prévu au départ.
Et dans un deuxième temps, non, bien sûr, parce que les chercheurs de l'époque qui étaient partis sur la pirogue avec le phonographe n'avaient pas prévu qu'un jour les Amazones puissent écouter les sons.
D'accord, merci. Et comme je le disais,
ça
beaucoup de questions.
Ça serait mieux qu'on vous voit, si je puis me permettre.
Comme je disais, beaucoup de questions autour des compétences, et les gens qui posent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas préciser le niveau de participation? Est-ce qu'il n'y a pas confusion entre une participation entre chercheurs, comme je l'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure, d'une collaboration en fait entre étudiants, doctorants, entre chercheurs, et vraiment une ouverture à la société? Alors dans participatif, et donc chacun vis-à-vis de votre projet, votre initiative à vous, est-ce que le plus important, est-ce que c'est l'ouverture à la société dans participatif, ou est-ce que c'est l'aspect collaboratif finalement, et qu'on peut avoir différents niveaux de compétences?
Donc là, quelques réponses rapides. Lou d'abord. Françoise.
C'est vraiment l'ouverture à la société, hein, comme je l'ai dit, parce que c'est ce qui fait sens pour nous. C'est vraiment, c'est notre mission, c'est d'être ouvert à tous. Donc voilà.
Lou.
À mon sens, c'est d'expérience aussi le croisement des données, donc l'interopérabilité des données, permet de vérifier leur qualité. Donc peu importe d'où vient la donnée, au partir du moment où on la met en regard de dizaines d'autres sources, finalement, ce qu'on appelle le quality check se fait naturellement, et en même temps la curation également, parce que les points qui ne sont pas à l'endroit où ils devraient être se corrigent.
La question porte sur l'intention que vous avez, c'est-à-dire est-ce que l'intention est l'intention d'une ouverture à la société dans l'engagement dans la participation?
Oui, évidemment, on aimerait profiter des gens qui connaissent mieux les territoires, dans le cas de l'archéologie, que les archéologues de bureaux ou de CNRS, des gens qui labourent les champs, des gens qui coupent des arbres, ont évidemment une réalité beaucoup plus forte. Et des chauffeurs de tractopelle ne savent pas forcément à quelle porte taper pour signaler leur découverte. ils iront peut-être plus facilement vers un projet participatif que vers les collègues du ministère. Ou,
Virginie, sur cette intention.
Alors, dans l'intention, je pense qu'il y a aussi... alors, bien sûr, l'ouverture à la société civile, c'est évident. Aussi aux enfants et aux adolescents, c'est aussi une démarche qui est faite beaucoup vers le patrimoine, par le patrimoine culturel. Donc, l'idée d'aller aussi vers ces participants-là, qui ont aussi tout à fait le... droit, devoir et souhait de vouloir désigner ou montrer ce qui est de leur patrimoine. Peut-être aussi dans l'intention, il y a quelque chose de l'ordre du d'être un peu bousculé aussi, peut-être. Bousculé dans ce que l'on a l'habitude de désigner, savoir un petit peu, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, si non pas on s'est trompé sur la désignation des patrimoines, mais si on n'en a pas oublié ou si on n'a pas qui ressurgissent à l'heure actuelle.
Merci. Une dernière question. Vous avez le micro.
Oui, alors une toute dernière question. Alors, par quel biais communique-t-on auprès des potentiels participants pour les inciter donc, à s'impliquer, associations, fédérations, etc. Est-ce qu'une bourse au projet participatif serait-elle souhaitable?
Alors, réponds, là, qui veut. Gwendoline va prendre la parole puisque
oui,
elle
donc
est une des deux intervenantes ici.
Voilà, donc je pense que effectivement la question de comment on communique avec ces participants qui sont hors des communautés scientifiques est essentielle et que l'apport du présentiel et du numérique sont absolument indissociables et qu'aujourd'hui les sciences participatives prennent de l'ampleur avec l'apport du numérique où justement il y a différentes modalités de communication qui se mettent en place. Et justement, c'est la complémentarité entre les temps d'ateliers présentiels ou d'événements, de rencontres. Ça peut être une année, une assemblée annuelle, des choses comme ça.
Si j'entends bien la question, c'est le avant. Comment est-ce qu'on embarque les participants dans le processus?
Ça, c'est comment le construire. Donc souvent, c'est associé avec des animateurs, des facilitateurs, des personnes relais, en fait, sur... soit dans via des sociétés savantes ou des sociétés amateurs déjà existantes. Donc il y a un partenariat qui se met en place. Ça peut être des associations, ça peut être des collectivités, des personnes intéressées par le sujet.
Des relais. Parce qu'entre le chauffeur de tractopelle et le chercheur,
voilà,
on a envie de savoir comment ça fonctionne.
Voilà, une personne d'une mairie ou de la chambre de l'agriculture peut justement avoir ce relais d'informations.
Virginie ?
Alors, dans le domaine de l'inventaire, les collectivités territoriales et les services donc de l'inventaire portent en fait des appels à projets. C'est souvent comme ça que ça fonctionne, donc avec des choses qui sont très, même sous le mode un peu festif au départ, ce sont des rencontres sur le terrain, des appels à projets donc auxquels donc répondent souvent des associations, mais également des étudiants. Et ils sont accompagnés ensuite avec un financement qui n'est pas énorme, mais il y a surtout un accompagnement scientifique, c'est-à-dire l'appréhension de la base de données, l'appréhension de ce vocabulaire dont je parlais. Et tout cet accompagnement fait qu'effectivement se forment des équipes intéressantes, vraiment pluridisciplinaires, chercheurs participants, parcourant à un moment donné un terrain ensemble, puis les participants presque en autonomie, en fait, continuent à parcourir le terrain. Donc c'est la notion d'appel à projet avec des systèmes de conventions qui sont mises en place.
D'engagement.
Oui, tout à fait.
Peter ?
Oui, donc une fois de plus, notre approche est très différente quelque part. Nos projets en fait sont imaginés dans un système d'évolution. Et donc en fait, c'est le projet lui-même qui devient sa propre publicité en quelque sorte, parce qu'il est présenté publiquement, c'est au moment où il est présenté publiquement que d'autres personnes s'engagent, et il y a là-dedans aussi une importance du fait que le projet soit pérenne, que l'institution effectivement puisse le porter, le projet, et il y a dans cette sorte de cette notion d'évolution la possibilité aussi de l'ajuster au fur et à mesure, de s'adapter aux besoins et des participants, et des chercheurs, et des artistes. Enfin, voilà. Donc, c'est une approche très, très différente. Ce n'est pas un programme.
Alors, Gwendoline, pour revenir à cette question de l'institution qu'on a commencé à aborder, qu'est-ce qui, dans l'institution, fait qu'il y a une bascule vers la participation ou pas ? Quelles sont les conditions qui font que tout à coup on s'engage dans des voies de participation? Quelle est l'expérience de votre institution dans le domaine de l'architecture? Est-ce que c'est le chercheur? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus collectif qui s'enclenche?
souvent, ça vient en fait du participant. Donc, dans la mesure où en architecture et on va dire urbanisme ou études urbaines, la présence, la dimension humaine est toujours présente. Donc, ça peut être, il peut être ce futur participant, il peut être à la fois habitant, il peut être citoyen, il peut être expert, concepteur, etc. Et donc, il est toujours dans les protocoles traditionnels, il est quand même toujours présent, plus ou moins au centre du sujet, mais toujours présent. Et donc, ça peut être, il peut avoir un rôle plutôt d'informateur ou un rôle presque de testeur dans des cadres d'expérimentation. Et le passage pour le chercheur, quand on passe d'un protocole, on va dire, traditionnel à un protocole participatif, c'est quand il y a cette capacité d'écoute et d'attention et de pouvoir répondre à une demande de ce participant, en fait, de ces gens qui interviennent, pour répondre à leurs questions, prendre le temps d'écouter, accepter de réorienter ces questions de recherche pour prendre en compte leurs préoccupations. Donc c'est des temps vraiment d'écoute pour le chercheur. Et donc
c'est avant tout une qualité intrinsèque de la personne qui se dit je me mets en posture dialogue et d'écoute.
Donc qui permet justement de favoriser l'engagement de ce participant. Et donc pour ça, il a besoin justement des conditions fournies par l'institution, donc que ce soit la communauté scientifique, donc qui est avec des travaux d'épistémologie, puisse être d'intégrer justement des protocoles qui peuvent être un peu fluctuants, des objets de recherche un peu mouvants, mais ça peut être aussi des temporalités beaucoup plus pratiques, où justement c'est des temps d'échange et de discussion, donc de valorisation des recherches qui sont hors des cadres académiques. Mais ça peut être aussi des temporalités qui ne correspondent pas forcément aux temporalités de la recherche par projet actuel. Donc voilà, c'est à la fois la communauté scientifique qui a à prendre en compte ces évolutions que peut amener la performativité en fait, du participant, qu'il peut avoir sur la recherche, et également sur les moyens, on va dire, pratiques.
Merci. Lou Bernard, j'aimerais bien avoir un souvenir de 2030.
En souvenir de 2030.
Si on se met tout ça avec tout ce qu'on vient de se dire et tout ce qu'on ne sait pas dire, 2030,
c'est fantastique. Les données de recherche sont ouvertes, elles sont partagées, elles sont accessibles par tous. On peut les trouver, on peut les citer, on peut les réutiliser. C'est fantastique. Tous les services de l'État ont mis leurs connaissances en commun. Tout ce qu'on appelle le legacy data, c'est-à-dire tout ce qui aujourd'hui est sous forme de papier, est disponible pour les générations futures sous forme numérique, les bibliothèques, le contenu des ouvrages, etc. est disponible.
Le fait de rendre public suffit à déclencher la participation ?
Alors, la participation se fait parce que il y a cet aspect ludique des gens qui... quand je travaille avec du public, ils aiment leur territoire, les gens aiment leur patrimoine, sont vraiment intéressés à le connaître et de temps en temps viennent même au CNRS ou même à la fac en disant on voudrait participer, comment on peut faire. Et donc c'est vrai que la mise en place de plateformes dont on sait que la donnée va être archivée, donc qu'elle sera reproductible, dont on sait que des personnels vont veiller en sorte qu'elle soit justement alignée proprement sur des outils qui permettent de les réutiliser, vont rassurer les gens à interagir avec nous grâce à toutes leurs applications numériques qu'ils auront sur eux en permanence.
Virginie, un souvenir de 2030. Et si vous avez des souvenirs de 2030 à partager, allez-y, vous les envoyez.
Souvenir de 2030, j'espère que tous les problèmes liés au droit de la propriété intellectuelle pourront être émancipés, ça y est. La fin aussi, moi j'espère souvenir de 2030, j'espère la fin d'une démarcation nature-culture, qu'on arrête avec ça, avec la possibilité donc d'une combinaison ensemble, être des corps complètement associés, nature-culture. Et puis pourquoi pas, on n'en a pas encore parlé, dans les participants, eh bien, il y a tous ceux qui sont pas loin en fait d'ici et derrière nous, les non-humains. Alors, qu'en est-il de leur participation dans la démarche participative ? Comment, euh, comment leur donner la parole, s'ils la veulent d'ailleurs, ils la veulent peut-être pas. Et puis voilà, et puis peut-être quand même aussi souvenir de 2030, des nouveaux métiers qui vont se mettre en place. Qu'est-ce que c'est qu'être un modérateur? Est-ce qu'on utilisera encore ce drôle de terme que je comprends pas toujours? Voilà, donc j'espère beaucoup de choses de 2030.
Françoise, un souvenir?
Pour nous, dans les archives, ça serait effectivement de pouvoir constituer des corpus. Ça sera fait, ça sera accessible.
Voilà. Les corpus sont accessibles en 2030.
Voilà.
Merci, Gwendoline.
C'est toujours autour d'une table, je pense, justement, entre les participants et les différents membres, à la fois relais, on va dire, et chercheurs et dimensions comité
scientifique. Et pourquoi autour d'une table ?
Parce qu'il y a toujours cette dimension présentielle qui vient, qui est toujours nécessaire à un moment, même lorsqu'on est dans des projets entièrement numériques, pour justement dépasser simplement la simple contribution où on y est. Il y a un moment, les échanges se font de manière informelle et hors des cadres du numérique.
Peter, un souvenir de 2030.
Donc c'est une recherche effectivement plus écologique, écologique dans le sens où de l'écologie humaine, où on est moins dans un cloisonnement chercheur-citoyen et moins dans une disciplinarité incomprise, dans une incompréhension les uns des autres.
Guillaume.
Oui, mais ce serait qu'il n'y ait plus de sciences sociales ou de sciences dures ou de sciences que des sciences en fait qui travaillent ensemble. Je pense que le principe du participatif, c'est aussi de mélanger les genres et les disciplines. C'est l'enjeu. Et donc de trouver des moyens aussi. Et je pense que le service public a un vrai rôle à jouer pour fournir donc à tous les laboratoires des moyens de travailler qui dépassent le cadre du projet. Pour moi, la vraie limite, et ce que j'espère en 2030, c'est que les projets seront des projets sur 100 ans et qu'on n'ait plus à financer des projets participatifs sur 3 ans.
Merci Guillaume. Comme l'a dit Peter Sinclair tout à l'heure, dans tout art il y a participation. Ici nous sommes dans l'art du colloque. La conclusion va vous revenir. Donc je vous donne la parole pendant 3 minutes et vous allez le faire par groupe de 4. Et dans chaque groupe de 4, je vous demande d'envoyer votre conclusion sur un de ces moyens-là. Donc vous vous tournez vers les personnes derrière vous et je vous donne un crédit de 2 fois 2 minutes. Là-bas, on retourne le sablier. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient de se dire ? Et faites-le avec des personnes qui sont devant vous, derrière vous, parce que la personne à côté de vous, à mon avis, vous la connaissez. Donc je préfère que vous le fassiez aussi avec des gens que vous ne connaissez pas. Ça, c'est une des vertus de la participation, c'est d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. Donc vous vous mettez par 4, est-ce que faites-le immédiatement. Mon collègue Erwan va vous aider. Est-ce que tout le monde est en groupe? Allez-y, vous avez 2 fois 2 minutes. Je vous donne le signal dans 2 minutes et vous textez votre conclusion, s'il vous plaît. Merci.